Bonsoir à tout le monde. C'est le cours numéro 8 de Survol du Nouveau Testament. Nous allons continuer la suite de ce que nous avions commencé. Voilà, on va prier. Seigneur Jésus, on veut te remettre la suite de cette soirée. Enfin, la soirée tout court. Et puis, on te prie pour que tu nous parles, que tu remplisses ma bouche, que tu mettes de l'ordre dans mes pensées. Et puis qu'on puisse tirer un certain nombre d'éléments intéressants de chacun des livres que nous allons voir ce soir, et aussi des choses dans le contenu, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse aussi pas mal avancer par rapport à ce que j'ai prévu. Amen. Donc ce soir, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Donc je ne vais même pas vous dire jusqu'où est-ce que j'ai prévu d'aller, comme ça je ne serai pas ridicule à la fin de la soirée. Non, mais comme vous ne savez pas jusqu'où j'avais prévu d'aller, au moins, n'y arrivant pas de beaucoup, au moins, ça va, quoi. Tout va très bien. Moi, je sais juste combien j'ai de retard. Donc, on était à 2 Corinthiens. Donc, forcément, qu'il y aurait eu d'autres choses à dire sur 1 Corinthiens, il y aurait des choses à voir, etc., qu'on a effleurées. Voilà, je vous ai fait croire que j'allais parler de certaines choses, et puis, finalement, j'en parle pas, parce qu'on va quand même essayer un petit peu d'avancer. Donc, 2 Corinthiens. C'est toujours Paul qui écrit, évidemment, et donc il écrit moins d'un an après la première lettre aux Corinthiens que nous avons. Et donc, comme je vous avais dit la semaine dernière, en fait, la deuxième, c'est la troisième, et la première, c'est la deuxième, puisqu'on subodore une première lettre que nous n'avons pas. Donc, pourquoi cette deuxième lettre, elle est écrite? Elle est écrite parce qu'il y a des problèmes qui viennent se surajouter ou remplacer, on n'en sait rien, ceux qui sont traités dans la première lettre que nous avons. Donc une chose aussi, alors ça c'est assez intéressant quand même, je vous le dis comme ça, peut-être que je me répéterai, peut-être pas, on verra, mais dans cette lettre-là, mais aussi dans d'autres écrits qu'il a fait, donc, et qu'on va peut-être voir ce soir, enfin c'est drôle, parce qu'en fait nous on est 2000 ans après, et donc on se dit l'apôtre Paul c'est waouh. Wow, le gars, il est rempli de Saint-Esprit du matin au soir, il écrit les Écritures, c'est un modèle, et nous, c'est « waouh ». Et en fait, on lit ces lettres, et pas dans toutes, mais dans certaines, dans 2 Corinthiens, puis d'autres qu'on verra après. En fait, il faut déjà qu'il passe son temps à expliquer qu'il est un apôtre légitime. Donc nous, on se dit « waouh », mais en fait, le contexte dans lequel il écrit, c'est en face, c'est pas « waouh ». Et des fois, c'est même pas « waouh » quand c'est lui qui a fondé l'Église, quoi. Alors tu te dis encore, il a fondé l'Église, donc pour eux, ça veut dire quelque chose, quoi. Je veux dire, l'apôtre Paul, quand même, c'est le gars qui persécutait les chrétiens, qui s'est converti, il nous a amené l'Évangile, on découvre un truc, c'est nouveau, on a l'Église, et donc quand même, dire c'est la référence, on va pas trop toucher, quoi. Même s'il est plus là, non, vous voyez, la chair des gens était les mêmes il y a 2000 ans qu'aujourd'hui, ça va aussi facilement, en fait. Et donc voilà, donc il faut qu'il défende son apostolat. Et donc cette lettre, elle est écrite, en tout cas d'après ce que dit notre ami QN, au printemps 56. 56, pas 1956. Hein. Donc Timothée était en chemin pour Corinthe, et il a dû revenir vers la Pentecôte avec des nouvelles alarmantes. Alors là aussi, une chose qui c'est bien d'avoir en tête, ça ne veut pas dire que je vais forcément vous en tirer des grandes conséquences à chaque fois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à une époque où tout va vite. Alors tout va vite sur la route, tout va vite dans les airs, tout va vite sur les rails, tout va vite dans l'organisation de la vie, tout va vite dans tout ce que vous voulez, et c'est quand même un peu nouveau. Alors je ne dis pas que c'est un peu nouveau depuis 20 ans, c'est un peu nouveau depuis, on va dire, un siècle. Mais avant ça, et donc, force est de conséquence, il y a 2000 ans, la vie, elle allait beaucoup moins vite. Et notamment, je dis ça pourquoi ? Parce que là, quand je vous lis, Timothée, il allait là, puis à Pentecôte, il revient, il a des nouvelles, et il va dire à l'autre qu'il va écrire une lettre, eh bien oui, ça se passait comme ça. C'est-à-dire que les nouvelles, c'était pas, tiens, j'ai reçu un mail, j'ai vu un machin sur Facebook, sur le site Facebook de l'église de Corinthe, mais en fait, j'ai vu un truc, franchement, ça décoconne un peu, il va falloir qu'on rectifie, je vais envoyer un mail. Et non, ça se passe pas comme ça. les nouvelles. Ce qui veut dire aussi que quand il écrit, ben, des fois, on va dire quelque part à l'instar de 1 Corinthiens, ben, il y a beaucoup de choses à traiter, quoi. Parce que le dernier courrier n'était pas il n'y a pas longtemps, son dernier voyage n'était pas forcément il y a 3 semaines. On n'a pas des nouvelles ben, par Skype ou je ne sais pas quoi. Donc tout ça, ça va très lentement. Et voilà. Et du coup, l'intérêt pour nous, 2000 ans plus tard, c'est du coup, ça fait quand même des écrits qui traitent d'un certain nombre de choses et qui, sur leur globalité, forgent une théologie. Qui n'est pas uniquement dans une seule lettre ou un seul livre qui serait très important, etc. Mais du coup, en prenant un peu tous ces bouts, tous ces éléments qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, notamment, ça construit la théologie, la manière de penser avec Dieu. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc notre ami, ouais, c'est ça, c'est Timothée qui revient et qui apporte des nouvelles qui ne sont pas super emballantes. Ok, on va le laisser tomber, lui. C'est... Voilà. Si, juste une chose, après on va dire d'autres choses, mais une chose, donc l'épître, il l'écrit, il est en Macédoine, notre ami Paul, parce que c'est Paul qui écrit quand même, quelques manuscrits, j'allais dire anciens, de toute façon ils sont tous anciens, précisent qu'il était même, pour, non seulement en Macédoine, mais à Philippe, à l'église de Philippe. Maintenant, dans le contenu quand même de 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, on a vu que il a reçu des nouvelles de la part de ceux de Chloé. Il y a des questions précises qui lui ont été posées aussi, entre autres choses. Donc, il traite des problèmes qui se passent, il traite des questions qui lui sont posées. Ici, 2 Corinthiens, c'est très différent. Même s'il y a aussi un certain nombre de problèmes, il y a aussi des problèmes qui manifestement ont été résolus. Il n'y revient pas nécessairement. Par contre, on va dire ce qui ressort de 2 Corinthiens, c'est deux points principaux en fait. Un, c'est la défense de son apostolat. Donc, avant même de régler des problèmes, il faut déjà qu'il soit légitime aux yeux des gens. Et il est en train de l'expliquer. C'est pour ça que c'est dans cette lettre qu'il explique qu'il est un père spirituel. Hein, parce qu'il les a engendrés en Christ, etc. etc. Cette lettre, elle a aussi une autre caractéristique qu'elle a avec, je ne sais plus laquelle, avec Philippe, je crois, avec la lettre aux Philippiennes, c'est d'être probablement la lettre la plus intimiste ou personnelle de la protocole, en fait. C'est-à-dire qu'on voit un peu un apôtre Paul humain, faible. C'est pas juste je traite les grandes lignes, je réponds aux questions, je démonte des argumentations. C'est pas juste ça. C'est un peu je parle avec mon cœur et en fait je vous explique que je suis peiné de certaines choses. Je suis peiné que vous ne reconnaissiez pas que je suis apôtre autant que les autres. Donc des fois, il fait aussi un peu de l'ironie, il joue un peu avec les mots aussi. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est dans 2 Corinthiens qui dit, voilà, ben, c'est bien si vous régnez, mais ben, ça serait bien qu'on règne un peu ensemble. Quoi. Hein. Vous régnez déjà, mais en fait, je suis en train de vous dire que non, vous n'êtes pas en train déjà de régner. Mais par contre, si on pouvait régner ensemble un jour, ça serait pas mal. Quoi. Ça, c'est... Donc c'est de l'ironie. Alors quand on le lit, il s'agit aussi de ne pas se faire des interprétations qui n'ont pas de sens et comprendre qu'en fait, il est en train de faire de l'humour, tout simplement. Hein. Donc voilà ce qu'on a sur 2 Corinthiens. On va s'arrêter un pouillade quand même pour regarder légèrement du texte, mais là, il faut que je fasse du tri, sinon... On est mort avant de naître, forcément. Alors, on va prendre 2 Corinthiens. Ben, on va peut-être déjà un tout petit peu au début, et si on a le temps, un petit peu après. Alors, dans 2 Corinthiens, on va prendre 2 Corinthiens 1, et on va lire juste quelques versets. Les versets 8 à 10. Voilà. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Voilà, on ne va pas en dire plus. Donc jusqu'à ce qui m'intéresse dans ces deux versets, d'abord c'est qu'il y a un point qui est peut-être intéressant pour notre vie, c'est que tant qu'on se considère comme vivant et tant qu'on essaye de rester vivant, eh bien, spirituellement, nous risquons de vivre plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la mort. Alors que si je me considère comme mort, en fait, et mort, je dirais, un petit peu à cette vie, alors ça ne veut pas dire que je ne fais rien dans cette vie, etc., mais ça veut dire que je replace les choses dans leur contexte, en fait, déjà un peu dans ma manière de penser ma vie et cette vie, peut-être que ça m'aide aussi à traverser ce qu'il y a à traverser. Deuxième chose qui est intéressante ici dans ces versets-là, tout à l'heure, je vous ai dit il y a deux minutes que c'est la lettre la plus intimiste ou la plus personnelle, on va dire, un peu de Paul. Là, effectivement, à travers ces quelques versets, on voit un Paul qui est faible comme on ne le voit pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres lettres, il va dire je suis faible, mais en fait, on est fortifié, enfin, peu importe, des choses comme ça, mais ça reste un petit peu de la théorie. Là, il est en train d'expliquer, en fait, on était où, là ? On était à... on peut pas d'endroit. Oui, c'est ça, on était en Asie, on a désespéré de conserver la vie. Donc là, il est quand même en train de vous expliquer que lui, qui, dans une lettre après, il te dit « Non, mais moi, j'ai appris à être content dans l'abondance et dans la disette. » Ouais, non, mais là, on était dans une situation concrète. On a eu une tribulation, on a eu peut-être une persécution physique. On nous a jeté des cailloux et tout, et où on était dans une situation hyper compliquée. Et là, on était là, on se disait « Ben, c'est peut-être fini, quoi. » Et on était dans une forme un peu de désespérance, quand même. Vous voyez ? Donc, c'est important, pourquoi ? C'est important de voir l'apôtre Paul aussi sous cette facette-là, parce que notre vie, même si on a besoin de la théologie, du côté « c'est quoi la doctrine ? C'est quoi la vérité ? C'est quoi qui doit me diriger ?» etc. Et on a besoin quand même de savoir qu'au quotidien, ben, on est fait de chair et d'os. Qu'on échoue, qu'on est faible, qu'on a des émotions qui montent, qui descendent, et même quand on connaît la Bible, etc., on a des émotions qui montent, qui descendent, et qu'on gère cette vie humaine un peu comme on peut, finalement. Alors oui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, en s'appuyant sur des choses qui sont sûres et tout, mais du coup, savoir que c'est pas anormal que le bateau tangue. Par contre, tout comme il le dit ici, même si là, le bateau tangue, la fin, au verset 10, quand même, c'est lui qui nous délivrera qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Donc ça veut dire que d'un côté, oui, on désespérait de rester vivant, et d'un autre côté, je sais quand même que j'ai quand même un Seigneur qui, je pense, me délivrera. Et qui, je dirais, ultimement, me délivrera comme les amis de Daniel. C'est-à-dire que si ça doit aller jusqu'au bout, effectivement, et à la fin, ben, c'est fini. Et de toute façon, un jour, ça sera fini, d'un biais ou d'un autre. Oui, il me délivrera dans le sens que je vais être avec lui. Aussi. Donc voilà, ça, c'est une petite facette quand même assez intéressante. Une autre chose que je voulais lire un peu plus loin dans le chapitre, c'est à la fin du chapitre, verset 15. Alors, 14, 15 et... Attends, me serais-je trompé de chapitre ? Parce que là, oui, c'est le chapitre d'après, non ? Ah oui, non, attends, voilà, on est ici, d'accord. C'est bon. Donc, dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté ? Oui, bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Ou d'autres versions vont dire amen. Et là, la seule chose qui m'intéresse dans ces quelques versets, c'est cette histoire de il n'y a pas de oui, non. Et comment dire ? Là, il est en train simplement d'expliquer ou de justifier des choix qu'il a faits, des choix de voyage, de direction, de venir maintenant, plus tard, avant, je voulais, mais finalement, je reviens. Enfin, je suis allé là-bas plutôt que là, mais en fait, j'arrive un peu plus tard. Donc, enfin, voilà. Dans ce contexte où les choses ne vont pas aussi vite qu'aujourd'hui, hein, on est d'accord. Donc, quand il est en train de dire « J'avais prévu d'aller chez vous, je vous mets au courant, puis finalement, je vais dans la Macédoine », donc ça veut dire que ton voyage, en fait, tu avais prévu d'arriver en mars et tu arrives en octobre, quoi. Donc derrière, un peu, vous voyez, les griefs qu'ils peuvent avoir aussi, parce que ça va beaucoup moins vite. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà des raisons, des torts, est-ce qu'il avait raison, est-ce qu'il a fait le bon choix, est-ce qu'il a bien entendu le Saint-Esprit, lui, ce qui l'intéresse, à un moment donné, c'est de dire ouais, mais la vie chrétienne, c'est pas oui et non. À un moment donné, je décide quelque chose. Et ça, ça veut dire aussi une chose, c'est que, ben, du coup, on a le droit de se tromper. Parce que si on n'a pas le droit de se tromper, effectivement, notre vie, ça va tout le temps être oui, non, j'y vais pas aujourd'hui. Ouais, bon, demain, j'y vais demain. Bon, ben non, finalement, j'y vais pas. Je sais pas, quelle que soit la décision, je dis j'y vais pas, il n'y a pas où aller. Mais, et lui, non, lui, il dit en fait, voilà, moi, en gros, je prends un peu des décisions, je pense que je vais aller là, et puis on y va. Après, peut-être qu'il s'avère que c'est bien, il s'avère que c'est moins bien. Et en même temps, à notre endroit, on le voit, quand il y a l'appel macédonien, ben, c'est quoi ? C'est que dans une vision, dans un rêve, il est parti pour aller dans une direction, et Dieu dit, il a le rêve du macédonien, et du coup, il dit, bon, les gars, il se réveille le matin, au petit déjeuner, il dit, bon, donc on devait aller là-bas, ben, en fait, j'ai fait un rêve, là, Dieu, il m'a dit, on va aller de l'autre côté. Là. Mais pourquoi ? Ben, écoute, j'ai fait un rêve, il faut aller là-bas. Et donc, et ça, c'est intéressant pour nous, parce que je pense que on peut parler de beaucoup de sujets dans la vie, voilà, dans l'Église, dans la vie chrétienne et tout. Tout est bien, on peut exhorter à tout, enfin à tout ce qui est biblique, bien sûr, mais je veux dire, on peut exhorter à tout, mais en fin de compte, les gens ne bougeront que seulement s'ils ont entendu de Dieu. On peut raconter ce qu'on veut, on peut dire qu'il faut évangéliser, il faut faire des cours, il faut faire des visites, il faut je ne sais pas quoi. Et c'est vrai, c'est juste, c'est biblique, mais si les gens ils l'entendent pas de Dieu, eh ben, ils se mettront que moyennement en œuvre. Et donc, on sera toujours frustré, en fait. Voyez. Et d'un autre côté, on doit aussi enseigner aux gens que comme il dit là, oui, et ce n'est pas oui et non, c'est qu'à un moment donné, il faut se mettre devant Dieu, voir ce qui est correct, puis prendre des décisions de direction en fait, générale qui sont correctes. Et dans ces directions générales qui sont correctes, ben, je m'y tiens. Et par contre, quand Dieu parle, ben, c'est autre chose. Tout simplement. Donc voilà, lui, les décisions dont il parle, là, c'est essentiellement des voyages. Je vais à telle ville, je vais démarrer une église à tel endroit, je vais dans la synagogue, je vais revoir telle église que j'ai démarrée. Comme on l'avait dit l'autre fois, là, par rapport à l'épître aux Romains, à un moment donné, c'est voilà, j'ai prévu qu'un jour, je vais aller vous voir et j'irai en allant en Espagne, etc. Ok. Voilà. Et bien, nous, dans les détails de notre vie, on va dire c'est pareil. Ayons des directions que nous donnons qui sont correctes bibliquement. Et ensuite, laissons-nous guider par la voix du Saint-Esprit qu'on essaye d'écouter. Parce que sinon, si j'attends que la voix du Saint-Esprit, je ne vais pas bouger, je ne sais jamais, c'est ça, c'est pas ça. Et si je mets des directions et ensuite on ferme les écoutilles parce que ben, c'est comme ça, c'est biblique, ben, quand Dieu veut que tu tournes un peu à droite, un peu à gauche, tu ne tournes pas, quoi. Donc il faut avoir un peu ces deux choses-là. Ce n'est pas oui et non. C'est oui, et en même temps, entendre de Dieu, parce que sinon, sinon on va pas être là où il faut. Une autre chose, un tout petit peu plus loin, puis on passera au livre suivant, ça nous suffira bien. Euh, Alors, on va lire donc, d'accord, un peu plus loin. Donc, nous portons ce trésor, pardon, 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, donc par rapport à ce que j'ai dit précédemment, enfin le premier verset dans les quelques petits premiers versets que j'ai vus dans le chapitre 1. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre chair mortelle. Et là, voilà, la chose qui est intéressante, c'est que là, pour le coup, vous voyez quand même un peu une bataille, quoi. En lui, en Paul. Hein. Et on voit quand même des propos qui sont tenus. C'est pas les propos qu'on a l'habitude de voir dans l'Épître aux Romains, qu'on va voir dans Galates, ou qu'on va voir dans Éphésiens, etc. On voit quelqu'un quand même qui est en train de manifester un peu qu'il est faible, qu'il est humain, que c'est compliqué et que des fois il est un peu au bout, quoi. Il est un peu à l'extrême. Il est à l'extrême, mais là où est sa foi et là où est son assurance dans la doctrine, c'est que comme il dit là, par exemple, on est dans la détresse, mais on n'est pas dans le désespoir. Alors, entre les deux, on pourrait se dire, gentil, on va prendre le Larousse, et puis tu sais, entre détresse et désespoir, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais enfin, on comprend ce qu'il veut dire. On veut dire que je suis poussé à bout, mais ça va pas m'amener de manière ultime, parce que, quand même, voilà, il y a quelqu'un avec moi sur le chemin, en fait. C'est ça qu'il veut dire. Même si on pourrait jouer sur les mots et dire, bah, franchement... Détresse, désespoir, c'est la même. Hein. Tu mets tout dans le même sac, tu fermes et tu envoies à l'eau. Quoi. C'est foutu, en gros. Et l'autre chose qui permet de... Parce que on peut être là et puis étudier la doctrine et puis se dire, OK, voilà, la vérité, c'est ça. Pim, pam, poum, petit A, petit B, petit C, c'est comme ça, c'est nickel, c'est sûr, c'est de Dieu. Et ça l'est. Et en fait, là-dedans, on oublie, au bout d'un moment... que nous portons ce trésor dans un vase de terre. Et donc, nous oublions que nous sommes un vase de terre. Dit autrement, c'est nous oublions d'où nous venons. Alors, on ne vient pas forcément tous des caniveaux de l'humanité, hein, je veux dire. Hein. Certes, mais de toute façon, aux yeux de Dieu, ce sont des caniveaux de l'humanité. Je veux dire, voilà. Moi, je me suis converti assez jeune. Je me droguais pas, j'ai un certain nombre de choses qui peuvent être sur le listing, ils n'y étaient pas dans ma vie, mais pour autant j'étais pécheur, pour autant j'étais loin de Dieu, pour autant je suis orgueilleux, égoïste, les gens ne m'intéressent pas, etc. C'est tout. Et ça, c'est inacceptable pour Dieu. Autant que celui qui boit, qui se drogue, qui va en boîte et qui change de fille toutes les semaines. Voilà. Après, moi, mon point de vue, comme ça, réfléchir humainement, je peux me dire, ben, maintenant, c'est pas pareil, quand même, moi, j'étais un petit saint et tout. Ouais, peut-être, mais ben, aux yeux de Dieu, non, j'étais pas un petit saint. Et ce que eux faisaient, moi, le potentiel, je l'ai dans mon vase de terre. Donc, si à un moment donné, je pense que je n'étais pas, ou que je ne suis plus un vase de terre, peut-être que le trésor, eh ben, il va pas pouvoir briller, il va pas être dans la place où il doit être, et puis surtout, je m'illusionne sur moi-même, en fait. Et quand on s'illusionne sur moi, sur soi-même, c'est pas forcément des grandes choses de s'illusionner sur soi-même. C'est juste oublier que nous sommes des pécheurs et que Dieu est saint. Et bien sûr qu'on le sait, là, j'apprends rien à personne. Mais en fait, en être conscient de manière un peu concrète dans notre vie. Parce que sinon, ben, je connais la vérité, j'ai le païen à côté, ben, je lis, je juge. C'est automatique, de toute façon, c'est dans nos gènes. Déjà, c'est dans nos gènes. Donc maintenant, je connais un peu plus de choses. Ben, je juge encore mieux. Avant, je me comparais sur déjà un socle qui était très moyen. Moi, je péchais, mais moins que lui. Bon, maintenant, c'est... Oh, attends, là, je commence à connaître bien la vérité. Donc là, l'autre, c'est bon, je peux le désosser. Je sais bien qu'il est vraiment... Il est dans le noir, quoi. Oui, mais c'est pas ça qui intéresse Dieu, quoi. Donc nous portons ce trésor dans un vase de terre. Et le vase de terre, c'est nous, les enfants. Vous voyez ? Et le vase de terre, eh bien, il est ballotté. Il est pressé. Il est, comment il dit là ? Il est dans la détresse, mais il n'est pas désespéré. Il est, ou alors il est persécuté, mais non... Alors persécuté, d'accord, mais non abattu. Non abandonné, pardon, non abandonné. Abattu, mais on n'est pas perdu. C'est pareil, on peut jouer sur les mots, hein. Battu, perdu, c'est pas grand-chose, hein. Etc. Et voilà. Et donc ça, c'est aussi une chose qui est importante et qui ressort de cette lettre corinthienne, qui est une lettre voilà, très, très personnelle de l'apôtre Paul, et qui en même temps nous donne des éléments comme ça, où en fait c'est riche pour nous. C'est riche de juste de s'arrêter et de dire, voilà, je porte le trésor dans un vase de terre. Et en même temps, je porte un trésor. Parce que des fois, on croit qu'on est un vase en or, mais qu'on porte, je ne sais pas quoi. En fait, le regard sur nous, c'est « Ouais, non, mais moi, je ne suis pas si mal que ça, tout ça. » Et en même temps, « Ah oui, mais faire l'œuvre de Dieu, moi, je ne peux pas. » Mais enfin, tu es ambivalent, là. Ça ne va pas, ton truc. Et non, c'est autrement. qu'est-ce que je voulais voir, juste peut-être vite fait ? Il n'y a plus rien. Voilà, je vous lis ces deux derniers versets, on va passer au livre suivant. Versets 16 à 18, donc toujours dans le même chapitre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et là, pareil, il y a quelques éléments qui sont importants à noter pour nous. C'est que la réalité, elle est visible, et elle peut faire mal, mais la vérité, elle est invisible, et c'est ce que je dois regarder. Une autre chose, c'est que nos afflictions, nos souffrances dans ce temps-là, dans cette vie, Ils sont réels au point qu'on vient de dire que il est décrit comme il est dans la détresse, il est persécuté, voilà, il est abattu, etc. Donc c'est ça en fait. Donc voilà, oui. Mais en fait, ce sont de légères afflictions. Pourquoi ? Parce que je dois tout mettre en perspective avec l'éternité. C'est-à-dire que si je calcule que ici, ma souffrance, elle est très grande. Elle est très grande. Souffrance intérieure, souffrance extérieure, ça dépend. Alors des fois, c'est extérieur, c'est une maladie, c'est un machin. Souffrance intérieure, des problèmes psychologiques à penser, à comprendre le monde, le machin, les questions métaphysiques, les relations avec les autres, enfin, ce que vous voulez. Souffrance très grande. Ingérable, en fait. Ingérable. Mais si je commence à prendre ça et à dire « Ok, mais ça, c'est... » D'abord, je ne suis pas seul là-dedans, et parce que Dieu est là. Mais autre chose, c'est que ça, c'est ce sont des légères afflictions par rapport au poids de gloire de l'éternité. Parce qu'en fait, cette vie, elle va passer vite, mais il y a un côté positif au fait qu'elle va passer vite, c'est qu'ensuite, on va être pour toujours avec Jésus. Et ça, c'est bon, en fait. Et ça doit nous motiver. Ça doit nous motiver de dire, de toute façon, voilà, c'est là, c'est, j'apprécie pas ce que je vis, mais de toute façon, c'est pas une finalité en fait. Alors, c'est pas une finalité, ça veut dire que de toute façon, ça va passer, qu'il y aura autre chose après, etc. Mais peut-être de manière plus concrète et quotidienne pour nous, c'est pas une finalité. Cette vie ici, en fait, ce n'est pas une finalité. Et autre chose, il y a pas mal de choses, je peux rien y faire. Voilà, je suis un homme, je ne peux pas être une femme. L'autre, je suis une femme, je ne peux pas être un homme. J'étais l'âge, ben je ne peux pas revenir en arrière, avoir l'âge que j'avais il y a 20 ans. Des fois, il y a des maladies qui font qu'avant, tu étais dans un tel état de forme, ben aujourd'hui, tu es dans un autre état de forme, ou de méforme, peu importe. Donc, il y a plein de choses dans cette vie. On ne peut rien y faire, de toute façon. Si, on peut y faire, se lamenter. Voilà. Se lamenter en ayant raison. Je souffre et le constat est vrai. Et je vieillis, ça va être de plus en plus compliqué, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a aussi des fois des choses un peu à faire quand même dans la vie pour arranger un peu, enfin arranger, ou en tout cas pour manager tout ça. Mais de toute façon, en finalité, on ne peut pas faire grand-chose. Donc du coup, ce sont des afflictions, mais elles sont légères aux yeux de Dieu. Et par contre, si j'accepte de les vivre avec Dieu, il y a un poids de gloire qui va avec. Et ce poids de gloire, ben forcément, c'est pour après. C'est dans l'invisible, parce que ce n'est pas maintenant, c'est après. Donc, 2 Corinthiens, on va passer à autre chose. On va aller voir... on va aller voir Galates. Alors, ce truc-là, je ne sais pas si je vous le donne maintenant ou si je le donne plus tard. Non, on va avancer comme ça et on le donnera peut-être un autre cours. On verra. On verra bien. Galates, c'est ici. Galates, en général, on pense que c'est la première lettre écrite par l'apôtre Paul, environ en 49 après Jésus-Christ. Lors de son premier voyage missionnaire, et que je regarde qu'est-ce que QN nous dit. Voilà, ici, donc lui nous dit. Oui, alors ça c'est intéressant. Alors Galates, souvent, des fois on ne le sait pas trop, on le sait peut-être d'autres, mais pas de celle-là. C'est une lettre circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, elle est envoyée aux Galates, mais ensuite, elle est destinée à être lue aussi par d'autres. C'est pas la seule. Éphésiens et Colossiens, c'est la même chose. Et Thessaloniciens, je sais plus, on verra quand je serai dans mes notes. Mais surtout, Éphésiens et Colossiens, c'est sûr. Ça, ce sont des lettres circulaires. Et notamment, Éphésiens, où, en fait, le début de la lettre, où il est dit, j'écris aux Éphésiens, dans la plupart des manuscrits, en fait, cet emplacement, il est blanc. Il est blanc et donc il est à chaque fois re-rempli de l'Église à laquelle il est envoyé, élu, etc. Alors quand je dis circulaire, en fait, ça veut dire qu'elle est lue dans différentes églises, même si elle est envoyée au départ à une. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui amène cette lettre à l'Église, et qui va aller d'église en église pour la faire lire aux autres. Hein. Là encore, c'est pareil, on n'est pas avec des moyens modernes où tu l'envoies, clic, aux Galates, et puis les Galates, ils se débrouillent, ils font un clic, ils l'envoient à l'autre à côté, etc. Non, en général, c'est celui qui a porté la lettre au départ qui va faire un petit circuit, puisque à l'époque, il voyageait. Donc voilà. Donc c'est une lettre circulaire. Donc l'église aux Galates, elle est fondée par l'apôtre Paul. Et là, il y a juste une discussion dans laquelle on ne va pas trop rentrer. On va se mettre d'accord avec UN et puis ça ira très bien. En fait, il y a deux endroits, la Galatie. Ça peut être deux endroits différents, en fait. Donc, lui nous dit que c'est, je crois, la Galatie du Sud, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Donc comment il dit ça? Donc les spécialistes. Donc ça peut désigner à la fois la région nord de l'Asie mineure au nord de la Turquie. Ce serait les descendants des Gaulois d'ailleurs. Mais aussi la province romaine qui englobe, on pense c'est plutôt là qu'il est écrit, en fait, la Lycaonie, Pisidie, Phrygie, etc. Puisque ça, et ça c'est plus au sud de la Turquie, parce que ça en fait c'est vrai que dans les voyages de Paul dans Actes, on voit qu'il parle de ces endroits-là en fait. Hein. Donc en tout cas, il a fondé l'église, et il va traiter d'un problème essentiel dans Galates, il ne va pas traiter de 50 problèmes en fait. Dans cette église, il y a essentiellement des païens convertis, mais il y a aussi un peu des juifs convertis. mais plutôt des païens. Et en fait, il y a deux gros soucis qui se relèvent dans, dans cette lettre et dans cette église, du coup. Il y en a un qui est traité beaucoup plus tard, essentiellement dans, dans Colossiens, mais quand même, ici, il y a aussi une question un peu de culte des anges. Mais le point essentiel, et par conséquent de gnosticisme, pardon, mais le point essentiel de Galates, c'est les judaïsants. Et du coup, le thème de Galates, c'est la justification par la foi. Donc, du coup, c'est un peu, on va dire, le même thème que l'Épître aux Romains, dans une lettre beaucoup plus courte, beaucoup plus dynamique, et où il y a des argumentations qui reviennent un petit peu dans le même ordre d'idées que ce qu'on a vu dans Romains. Et donc voilà, donc il traite cette chose-là, parce que le problème qui se passe, c'est que vous avez des judaïsants dans l'Église, et des judaïsants qui viennent de l'extérieur également, qui veulent imposer la loi et la circoncision aux païens qui se sont convertis. Et donc, c'est dans cette lettre que Paul, à deux reprises, il dit, mais alors là, d'ailleurs, c'est au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Et du coup, son but dans toute la lettre, c'est essentiellement de définir ce qu'est l'évangile de Christ. Parce qu'en fait, par le terme évangile, lui, mais eux aussi, les judaïsants, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils expliquaient en fait c'est quoi la doctrine du salut pour eux, quoi, en fait, tout simplement. Donc lui, c'est basé exclusivement sur la grâce, et pour eux, c'était oui, il y a de la grâce, mais quand même. Ben, il faut quand même qu'on se plie au rite de la loi de Moïse, quand même, et notamment la circoncision. Du coup, dans son argumentation qu'il va développer ici, ben, il va encore nous parler d'Abraham, il va nous parler de Hagar, qui représente la loi, etc. Et donc, il va rentrer dans toutes ces choses-là. Alors déjà, pour montrer, comme il l'a déjà montré exactement sur la même argumentation qu'en Romaine, que la circoncision elle est antérieure à la loi de 430 ans. Donc la loi en fait ne peut pas s'imposer au-delà des promesses et des alliances que Dieu a fait avec Abraham, et qu'en fait ce salut qu'ils ont aujourd'hui, cet évangile qu'ils ont aujourd'hui, il est basé sur cette promesse d'Abraham. Et l'héritier pour tous qui est issu d'Abraham, comme il le dit ici dans Galates, il est un seul, et en fait c'est Christ. Et c'est Christ, et c'est pour tous. Et encore une fois, par rapport à ce que j'avais dit sur Romains, là, il est en train de traiter l'évangile, la justification par la foi, le salut. Il n'est pas en train de traiter la destinée des Juifs. Donc quand il parle et qu'il dit « Oui, vous êtes l'Israël, le Dieu, etc. », ce n'est pas pour dire « Les autres, c'est fini. » Parce que, c'est encore une fois, ce n'est pas du tout le sujet de la lettre. Par contre, c'est pour montrer justement que ce sur quoi les judaïsants s'enorgueillissent, ben en fait, aujourd'hui, c'est pas vraiment l'actualité, quoi. C'est plus l'actualité, les enfants. Voilà. Autre chose qu'il va aussi mettre ici, et qu'il va mettre en évidence, alors, il faut que je reprenne quand même le bon verset, sinon, on va avoir un peu de mal. Ok, lui, on laisse tomber. Alors, je crois que c'est là. Voilà, c'est ça. C'est à partir du verset 23. Afin que la foi vienne, afin que la foi. Alors, on va lire un peu plus haut, sinon ça ne va rien dire du tout. Comment chapitre 3. Donc, à partir du verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Puisqu'en fait, ce qu'il développe avant, finalement, je ne vais pas vous lire tout le texte et puis me répéter 150 fois, c'est que, voilà, vous dites qu'il faut qu'on observe la loi. En fait, le problème, c'est que la loi. En fait, elle va à l'encontre du principe de la foi qui est le principe qui amène au salut pour tout le monde, en fait, et qui est le principe qui doit régir l'époque dans laquelle nous sommes. C'est ce qu'il explique. Donc, du coup, en même temps, il dit, ben oui, il faut quand même que je vous explique à quoi ça sert la loi, parce que en même temps, la loi, elle a quand même été donnée par Dieu. Dieu a demandé qu'on s'y conforme pendant plus que des siècles. Donc, quand même, il faut quand même que je... Parce que ce qui est intéressant avec Paul, c'est quand même qu'il essaye de répondre un peu à toutes les questions jusqu'au bout, quoi. Il pourrait juste dire, ben voilà, écoutez, non mais là aujourd'hui c'est juste la foi, c'est plus la loi, vous rentrez à la maison, vous arrêtez de me casser les pieds. Non, c'est pas juste ça. Je vous explique pourquoi c'est la foi et pas la loi, et ensuite il faut que je vous explique à quoi ça sert la loi. Hein? Donc on l'a vu un peu déjà dans Romains, et bien là, complément d'explication, la loi, alors donc, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu, loin de là, s'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et donc là, après, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est pareil. Ça veut dire quoi, il n'y a plus ni homme ni femme? Bien sûr qu'il y a des hommes et des femmes. Oui, mais dans la foi en Jésus-Christ, il n'y a plus homme et femme. On a un salut, voilà, pour tout le monde, point. Il n'y a plus de distinction. Car tous vous êtes en un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et là, comme je vous dis, il en parle selon la doctrine du salut. Il n'en parle pas selon des choses à venir. Et donc ici, voilà, la loi, elle sert à quoi? Elle est un pédagogue pour nous amener à la foi, pour nous amener à Christ. Donc tout à l'heure, quand je disais, voilà, nous avons un trésor dans un vase de terre, c'est un peu le même principe. La loi, elle est là pourquoi? Pour montrer que je suis un vase de terre. Et quand je réalise que je suis un vase de terre, je peux commencer à fonctionner dans la foi. Et quand je pense que je suis autre chose, eh bien, ça devient très compliqué. Très compliqué parce qu'en fait, quand on pense que nous sommes quelque chose, on va défendre ce que l'on est ou ce qu'on pense être. Et donc, en l'occurrence, pour eux, défendre ce qu'ils pensent être, c'est quoi? Ben, c'est utiliser la loi. Comment je vais prouver que je suis mieux qu'eux? Ben, par la loi. Puisque la loi, je peux montrer que, par la loi, je peux montrer que je fais des choses que d'autres ne font pas. Donc que je suis mieux qu'un vase de terre. Mais si je pars du départ que je suis un vase de terre, je n'ai rien à montrer. Je suis un vase de terre, je ne peux pas, j'ai besoin de Dieu. Et aujourd'hui, ça marche selon le fonctionnement de la foi, de la confiance. Eh bien, allons-y là-dedans avec ce qu'on arrive à faire. Autre chose que je veux voir tout vite fait, c'est le verset le plus connu de Galates 2, mais avec celui qui suit, en fait, qui m'intéresse, de Galates 2, de Galates tout court d'ailleurs. Donc c'est Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc là encore, son argumentation, elle est très intéressante. Donc j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, en grec, il y a deux moi différents. Enfin, en français, il n'y en a qu'un, c'est moi et moi. Et en grec, il y a deux moi différents, en fait. Ce qui montre quelque part qu'en nous, là c'est dit un peu comme il peut avec la langue grecque, en français c'est même pas dit du tout du coup, que oui, quelque part il y a deux moi en moi. Il y a moi, il y a je. Il y a moi, il y a je. Et donc si je vis, après pareil, si je vis maintenant dans la chair, ça veut pas dire vivre charnellement, comme on peut le dire nous communément entre nous, non. Si je vis dans ce corps, en fait, tout simplement. Donc si je vis dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc la foi, l'objet de la foi, c'est le Fils de Dieu qui s'est livré pour moi. Et donc surtout, au verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice, puisque ça c'est le thème du livre, c'est comment est-ce qu'on est justifié devant Dieu. La justification, elle est par la foi. Donc car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et ça, c'est assez intéressant, parce que nous, de manière subtile, on y revient, en fait. On revient à une autre forme de justice, en fait. Donc là, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et en fait, c'est vrai, on réfléchit une seconde, on se dit, mais attends, s'il y a besoin encore de la loi, et donc là où je dis que ça peut nous concerner plus aussi nous aujourd'hui, c'est que là, évidemment, ils sont en train de parler de la loi de Moïse, puisque ce sont des judaïsants, ils sont dans un contexte religieux de l'Ancien Testament, etc. Mais pour nous, c'est quelle que soit la loi qu'on va y mettre, en fait. Si je pense que c'est sur un principe de loi que je vais être juste devant Dieu, je dois me poser une question très simple qui doit me remettre les neurones à l'endroit. Pourquoi Christ est mort sur la croix ? Et c'est vrai que si on réfléchit deux secondes, on va dire, ben ça sert à rien. Ça sert à rien. Je veux dire, il n'est pas mort sur une croix pour nous servir d'exemple et que nous, on fasse pareil. Nulle part, il nous est dit d'aller sur une croix. OK. Bon, donc si ce n'est pas un exemple, pourquoi il est mort sur une croix ? Et donc, si ce n'est pas pour payer à ma place, c'est pour rien du tout. Et si c'est pour payer à ma place, ben, ça veut dire que le principe de la loi ne sert pas à payer à ma place. Donc, s'il ne sert pas à payer à ma place, c'est lui qui doit ne servir à rien. Vous comprenez ? Donc, si c'est par... Non ? Oui, si. Non, j'ai eu peur, là, j'ai vu un truc... Donc voilà. Donc, la logique, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, on est sous la grâce. Et du coup, si c'est par la loi, Christ sur la croix, ça ne sert à rien. Mais la réalité de Christ sur la croix fait que nous sommes sous le principe de la grâce, et par conséquent, la loi ne sert à rien, si ce n'est de me faire réaliser qu'il y avait une bonne raison pour laquelle il est allé sur la croix. Mais en termes de fonctionnement quotidien, ça ne me sert à rien. Si ce n'est éventuellement, oui, de savoir peut-être qu'est-ce que Dieu apprécie et n'apprécie pas. Mais je ne vais pas me justifier par ce biais-là. Hein ? Et après, je reviens juste sur le verset d'avant quand même. J'ai été crucifié avec Christ. Ça, c'est pareil, ça, c'est de la théorie, c'est de la théologie. On se dit, je comprends, mais bon, dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire, ça, quoi ? Je veux dire, t'es crucifié avec Christ, oui, d'accord. C'est bien, ok, c'est virtuel, c'était il y a 2000 ans, j'y étais pas, ça s'est fait sans moi. C'est bien, tant mieux, je suis au bénef, mais bon. Mais par contre, voilà, mais en fait, ce verset-là, il n'est pas juste théorique il y a 2000 ans, il est très présent, parce que j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est si je vis maintenant. Ce n'est pas si je vis dans l'absolu, un jour, dans l'éternité. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, donc moi, mais quand je dis moi, c'est le moi que je connais, le vieux moi, le moi qui n'a pas rencontré Christ sur la croix, en fait. Hein ? Ce n'est plus moi qui vis, il est passé où ? C'est Christ qui vit en moi. Donc, dans un nouveau moi que je ne connais pas. Ou en tout cas, je suis appelé à découvrir. Et je vais le découvrir sur la base de quelque chose qui est effectivement théorique pour moi, qui est que j'ai été crucifié avec Christ. Et si j'ai été crucifié avec Christ, je pêche pas, je fais bien, je fais pas bien, je suis au même endroit, en fait. Vis-à-vis de Dieu, je suis au même endroit. Je suis crucifié sur cette croix. Le problème du péché est réglé. Je suis une nouvelle nature. Et après, je pèse, je pêche pas, je prends des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Ça, ça va être des conséquences concrètes de qu'est-ce qu'on a à vivre ici. Mais vis-à-vis de Dieu, ça ne changera pas mon statut. Ça ne changera pas ma destinée. Ça ne changera rien. Et en fait, pour mieux marcher maintenant, j'ai besoin toujours de revenir à ça. Parce que sinon, en fait, je vis dans... Je ne sais pas dans quel mois je vis, en fait. Pas quel mois de l'année, mais dans quel mois du verset de Galates de Veynes. Est-ce que c'est le... Ce n'est plus moi, ou est-ce que c'est dans... où est-ce qu'il est passé ? Si je vis maintenant dans l'enfer, je vis dans la foi qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est dans lequel le moi que je suis. Mais en fait, j'en sais rien. Donc, il faut que je revienne, on va dire, à la théologie, à la doctrine. Et au fait que je suis crucifié. Galates, on passe à autre chose. Donc là, c'est pareil, Galates, il y a 250 milliards de choses à faire, il y aurait des passages à lire. Enfin, on est bien d'accord, c'est, on a pris un avion et on avance. Hein. Galates, c'est fait. Éphésiens, on va regarder rapidement notre ami QN, qu'est-ce qu'il nous dit sur Éphésiens en termes de généralité. Et puis on s'arrêtera peut-être sur un petit passage et basta. Alors, oui, intéressant l'épître aux Éphésiens. Alors, Galates, c'est la justification par la foi. Éphésiens, ça va être le corps de Christ, en fait. Alors, je vous le dis comme ça dans la foulée parce que c'est intéressant. Éphésiens, c'est le corps de Christ. Et Colossiens, c'est la tête du corps. Vous m'avez suivi ? Ouais ? Voilà. C'est la tête du corps. Donc, Éphésiens, donc l'auteur, bon, c'est toujours Paul, on ne va pas y revenir 107 fois. Par contre, l'épître, elle a été écrite en prison à Rome, en même temps que Colossiens et Philémon. Donc, il dit aux environs de l'été 62. Très bien. Donc, quand même, assez tôt, hein, c'est quand même malgré tout. Donc, Éphésiens, Colossiens et Philémon, ça a été écrit par Paul, en prison à Rome. Alors, on sait qu'il y a eu au moins deux emprisonnements de la part de Paul, enfin, que lui, il a subi. Un qui était, si je ne me trompe pas, à Éphèse, et c'était être assigné à résidence dans une maison où il pouvait recevoir des gens. Et puis, la dernière fois, bon, ben, forcément, ça, là, il ne recevait plus personne. Ça a été, enfin, ce qui a dû l'amener jusqu'à la fin, où ils ont dû certainement lui couper la tête, même si on ne l'a pas dans les écrits du Nouveau Testament, mais on le subodore, étant donné son statut de citoyen romain, sa situation de prisonnier et les chefs d'inculpation qui allaient sur lui. Donc voilà, donc on pense qu'effectivement, ils ont dû lui couper la tête à Rome, et voilà, c'est tout. Mais donc, par contre, il a eu un emprisonnement quand même un peu plus soft, le premier, où là, il est voilà, assigné à résidence dans une maison, et où du coup, il reçoit des gens, il écrit des lettres, il envoie, etc. Donc là, néanmoins, à Rome, notre ami, il écrit ces différentes lettres. Donc celle-ci, à qui il écrit ? Alors, elle s'appelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Éphèse. Éphèse, c'est la capitale d'une province romaine en Asie. 300-400 000 habitants. Vous voyez, on avait vu Corinthe, 700-800 000. Vous voyez un peu la dimension des villes à l'époque. Donc, c'est déjà une ville assez grosse aussi. Donc, cette lettre, comme je vous dis, elle est circulaire et elle est destinée à toutes les communautés de la province d'Asie. Donc, c'est une lettre qui n'a pas été lue que pour les Éphésiennes. Et je dirais même que plus que celle de Colossiens, elle, du coup, elle parle peut-être de manière un peu plus large et un petit peu plus générale. Et effectivement, elle semble moins ciblée à une problématique d'une église, etc. Alors que Colossiens, même si elle est circulaire et elle doit passer aussi ailleurs, elle traite quand même de problèmes qui naissaient dans l'église, de problèmes, doctrinaux et même philosophiques, puisqu'il y avait donc des philosophies qui rentraient un peu et qui faisaient que leur manière de voir les choses était un peu altérée. Donc l'épître aux Éphésiens, d'après notre ami QN, il estime que c'est la moins personnelle et la plus structurée des lettres de Paul. Donc pour lui, c'est plus structuré que l'épître aux Romains, qui néanmoins est, comme on a dit, la cathédrale de la théologie. Mais qui ne traite pas tous les sujets néanmoins, hein, on l'avait dit. Donc celle-ci est très structurée. Alors celle-ci, elle est exactement selon le principe que l'on dit souvent sur les lettres de Paul, qui n'est pas absolu à toutes, mais en général, c'est un peu première moitié doctrinale, deuxième moitié d'ordre pratique. Donc, et d'ailleurs, ce n'est pas toujours moitié-moitié, puisque Romain, c'est plus que moitié doctrinal, et ensuite, c'est effectivement d'ordre pratique. Et vraiment plus que moitié, parce que... On peut même dire que l'ordre pratique il démarre au chapitre 12 alors qu'il y en a 16, donc forcément. Ici, c'est effectivement les trois premiers, c'est vraiment assez doctrinal. Et ensuite, plus des considérations et des avis, des conseils, des choses pour les relations entre les gens, pour les relations dans l'Église, etc. Et ici, donc, il traite du corps de Christ, du fait que l'Église est le corps de Christ, que nous avons tous des dons. C'est ici aussi, en Éphésiens 4, qu'il y a une des principales listes de dons spirituels qui sont donnés. En Corinthiens, il y en a aussi une, évidemment, en Corinthiens 12. Mais voilà, bon, ces listes, on peut estimer qu'elles ne sont pas forcément exhaustives, mais en tout cas, elles sont là. Donc voilà, le but de la lettre, donc moi je vous l'ai dit, c'était de... Donc plutôt, je vais vous lire ce que dit QN. Pour lui, il n'y a aucun but précis qui ressort directement de la lecture de l'Épître aux Éphésiens. Son premier objectif semble être didactique, c'est-à-dire que Paul, il veut donner à toutes ces églises, parce qu'en fait, c'est Éphèse, mais c'est toute une région, hein, et puis elles vont circuler, il veut leur donner... un enseignement solide sur les fondements de la foi et de la vie chrétienne, sachant qu'elles vont être menacées par des persécutions, puisque de toute façon, c'est un peu l'actualité du premier siècle. Et donc, il veut leur laisser un condensé, quelque chose d'essentiel. Donc, du coup, effectivement, il est dans des généralités, mais pas dans le sens péjoratif. Dans le sens, je traite justement d'un maximum de sujets qui vont être utiles. Et donc, tout tourne autour du corps de Christ. Qu'est-ce qu'on pourrait vous faire d'intéressant encore sur Éphésiens ? Ça, on ne va pas s'amuser à le lire. Juste, on vous le dit comme ça pour rigoler. Les 14 premiers versets du premier chapitre d'Éphésiens, les 14 premiers versets, hein, donc vous regardez un peu à quoi ça correspond, une colonne et demie, c'est dans vos Bibles, c'est une phrase. Une phrase. Intéressant, quand même. Donc, juste pour dire que voilà, il y a aussi un style et un niveau d'écriture chez l'apôtre Paul par moment qui est quand même qui est assez élevé. Et du coup, par contre, ce qui est quand même aussi intéressant à comprendre, c'est que si vous avez une phrase qui fait la longueur de 14 versets, vous imaginez que de bien comprendre tout ce qu'il a voulu dire ces 14 versets, ça peut des fois être un petit peu compliqué parce que si vous ne mettez pas de point quelque part... Attends, en fait, c'est quoi qu'il associe avec quoi et où il revient sur quoi, en fait, hein, quand même. Mais bon, voilà, c'était quand même juste pour le dire. Dans ce premier chapitre de Éphésiens, un nombre incalculable de fois, enfin, calculable si calculé, mais moi, je ne l'ai pas sous les yeux, l'expression « en lui », ça revient beaucoup dans Éphésiens, notamment dans ce premier chapitre. Et ça, c'est aussi important pour nous, parce que là, on traite du corps de Christ et donc de l'Église, quoi, si vous voulez, de manière concrète en tant que corps organique, on va dire. Et du coup, en lui, ça veut dire que voilà, la vie qu'on a à vivre, elle se situe là. Elle est en lui. Elle est en lui. C'est pas des choses à faire pour ou avec ou contre ou je sais pas quoi. C'est en lui. Et si je voulais quand même peut-être vous expliquer vite fait, c'est... Ah non, c'est dans Philippiens. D'accord. Laissons tomber. Alors, non, je ne vais pas forcément vous dire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Là, évidemment qu'on pourrait rentrer, s'arrêter et dire plein, plein de choses, mais on ne va pas le faire. Ouais. Bon, non, on va pas dire plus, on va essayer d'avancer, il nous reste un quart d'heure, et on ne sera pas allé aussi loin qu'on avait prévu, mais c'est pas grave. La lettre suivante, c'est Philippiens. Le thème de cette lettre, c'est la joie. C'est un mot qui revient très souvent dans cette lettre, donc. C'est une église que Paul a fondée également, Et non seulement ça, c'est une église où je dirais qu'à travers l'Acte des Apôtres et à travers ce qu'on lit dans la lettre en elle-même, on voit que c'est une église en bonne santé et c'est une église dans laquelle Paul a... comment on pourrait dire ça ? C'est une église avec qui il a une bonne relation, on va dire. Voilà. Et qui est plutôt en bonne santé. Cette église, alors c'est assez intéressant, parce que le thème, si on peut dire, c'est la joie, et en même temps, eux, ils sont quand même un peu dans la persécution, là, au milieu, comme d'habitude. L'apôtre Paul, c'est lui qui écrit, comme d'habitude. Il écrit depuis Rome, où il est en prison. Donc lui, il est en prison, il leur écrit et il leur parle de la joie pendant 4 chapitres. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est là aussi, je crois, qu'il dit qu'il a appris à être content dans l'abondance et dans la disette, qu'il a travaillé de ses propres mains afin de donner un exemple et qu'il aurait pu faire autrement. Bon, ça, il ne le dit pas que là, il le dit à d'autres endroits, mais bon. Donc, les Philippiens ont appris la détention de l'apôtre Paul, et ils ont envoyé Paphrodite et entendu donc parler de la maladie de celui-ci. Donc, un premier interrogatoire a déjà eu lieu, et puisqu'il me parle, le verdict est imminent, de quoi il parle. Donc, la rédaction de cette épître devait se situer vers la fin des deux années de la captivité de la première captivité de Paul à Rome, c'est-à-dire vers 63. Voilà. Après, bon, les dates, c'est toujours quelques années près, bon, ça choupille un peu, quoi. Hein, c'est pas toujours d'un commentateur à un autre, ça peut être un peu différent, mais bon, c'est en général, c'est à peu près ça. Oui, voilà. En fait, cette lettre, il l'écrit alors que lui-même, il est en prison et il est pendant son procès, en fait. C'est ça. Il est pendant un procès déjà qui le concerne. L'Église, elle a été fondée par Paul lors de son deuxième voyage, c'est ce qu'on voit en acte 16. La majorité des membres de l'Église sont d'origine païenne. Et l'Église a gardé des relations étroites avec l'apôtre Paul, ce qui explique peut-être pourquoi est-ce que on ressent quand même qu'il est, il y a une bonne relation, quoi, si on peut dire. Et donc Philippe, c'est en Macédoine, hein, donc pour situer un peu. Donc du coup, c'est quand même une lettre qui est assez personnelle, mais pas forcément sur le même ton que 2 Corinthiens, par exemple. C'est personnel, mais sur un ton complètement différent, parce que 2 Corinthiens, c'est personnel, mais quelque part avec plutôt de la tristesse, et j'essaye de vous montrer des choses. Et Philippiens, c'est personnel, mais en fait, plus parce que on a vécu des choses ensemble, en fait. C'est plus sous cet éclairage-là, on va dire. Donc voilà. Alors ensuite, on va rentrer un peu dans Philippiens vite fait. Tout de même. Alors oui, en Philippiens, il y a certaines choses qui peuvent être intéressantes quand même à lire et à essayer de commenter, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais vous lire juste quelques versets qui peuvent être troublants. Et je vais vous y donner un petit peu de sens. Voilà, alors en Philippiens 2, la première partie du chapitre, les 11 premiers versets, on va dire, ça parle de ce qu'on appelle la doctrine de kénosis. Kénosis en grec, ça veut dire dépouiller, et en fait c'est la doctrine où en fait Paul, il explique que Christ s'est dépouillé de ses attributs divins pour venir prendre l'humanité, enfin la forme humaine, et accomplir le salut. Donc ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas là que je voulais m'arrêter, c'est à partir du verset 12, où il est dit ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit le vouloir, qui produit en vous, pardon, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc là, forcément, qu'est-ce qui pose problème une fois qu'on a parlé de la grâce, du salut, c'est gratuit, c'est machin, c'est tout ce que tu veux ? Tu te dis, bon ben, c'est bien, mais alors, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ça paraît un petit peu embêtant. En fait, la chose qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il est en train de parler. Est-ce que là, il est en train de parler, en fait, du salut éternel ? Eh bien, pas forcément. Et je dirais qu'il ne parle pas du fait qu'on va être sauvé pour l'éternité. Il est en train de parler, quelque part, de la réalité du salut au quotidien. Donc, on pourrait traduire autrement et dire, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Mettez en œuvre, mettez en pratique, si vous voulez. Et d'ailleurs, ça va tout à fait avec ce qui suit, puisqu'il dit, non seulement comme en ma présence, mais bien encore maintenant que je suis absent. Et ce qu'il nous donne derrière, c'est intéressant, parce que si c'était travailler à votre salut, bon déjà, ça sous-entendrait qu'en fait, on est sauvé en faisant une œuvre, contrairement à tout ce qu'il a développé, et en Galates, et en Romains, et en machin, et tout ce que vous voulez. Donc déjà, j'aurais un peu du mal à tout caler ensemble. Mais autre chose, c'est que les versets suivants, il dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ah. Donc, en fait, ce qui se passe avec ce verset-là, c'est que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Ce qui veut dire que, en réalité, pourquoi il nous exhorte à mettre en pratique notre salut ? Parce que si c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, ça veut dire que quelque part, nous n'avons pas d'excuse pour mettre en œuvre notre salut. Si on avait l'excuse de ne pas avoir la volonté ou le faire, mais là, en fait, il dit que c'est lui qui nous le donne. Donc ça veut dire que le salut, il est acquis, et en même temps, ensuite, ce que Dieu peut mettre devant toi, il te donne le vouloir et le faire. Donc, continue d'obéir, parce qu'en fait, c'est le trait d'union par lequel tu vas rentrer en action avec Dieu, en fait. Tu vas être en corrélation avec Dieu. L'obéissance, c'est pareil. L'obéissance, c'est comme la loi. C'est pas une fin en soi. Dans la vie chrétienne, il faut obéir. Enfin, il y a besoin d'obéir. Mais obéir n'est pas une finalité. Obéir, c'est pour rencontrer celui qui demande quelque chose. Pour rencontrer celui qui a tout fait. Pour rencontrer celui qu'on verra pour toujours. Ça, c'est le but d'obéir. C'est pas obéir pour dire, attends, moi, je suis obéissant. Hein. Pas de problème. Hein. Moi, je dépasse pas la ligne. Hein. C'est bien. Moi, j'ai fait tout bien comme on m'a dit, moi. Moi, tout bien. Pas de problème. 20 sur 20, moi. C'est pas ça. Non. C'est obéissez, comme il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Donc, en fait, vous faites déjà bien. Je suis simplement en train de vous encourager à continuer de faire bien. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire mettez en œuvre votre salut. Et d'ailleurs, dans Parole vivante, il nous le traduit, c'est pas exactement une traduction, mais il nous le transpose un peu autrement. Philippiens 2:12, il le dit, viens ici. Vous de même, mes frères, soyez obéissants comme vous l'avez toujours été. Lorsque j'étais parmi vous, maintenant que je suis loin, continuez à suivre mes instructions. Menez à bonne fin dans le saint respect de Dieu le salut qui vous a été donné. Traduisez-le en acte. Vous n'êtes pas seul, Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Faites tout. Et par contre, derrière, conseil pratique, faites tout sans murmure. faites tout sans murmure, parce que quand on est dans les murmures et tout, en fait, on sort de ce domaine de la grâce, de la foi, de la confiance, et de simplement marcher avec Dieu, quoi. Hein? Donc voilà, afin que vous soyez et l'autre but, c'est vis-à-vis des autres, c'est que afin que vous soyez irrépréhensibles et purs, des enfants de Dieu, oula, refais l'ensemble, que vous soyez irréprochables, pardon, et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous allez briller dans le monde, quoi, en mettant en œuvre, en mettant en pratique le résultat de votre salut. En fait, vous avez reçu Christ, donc vous vivez comme. Et en fait, ça, parce qu'il y a cette formulation qui peut être un peu choquante et gênante, on s'y attarde. Mais en fait, ça, c'est pas différent que, par exemple, un Éphésien, il va dire, où est-ce qu'il dit ça, par exemple Ouais, par exemple, Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc voilà, marchez dans ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous n'êtes plus ce dans quoi vous marchiez avant. Et là, c'est dit d'une manière autre, simplement. Autre chose qui doit nous motiver, on va le lire ici. Chapitre 3, verset 7. 7 à 14, et on commentera très courtement, on finira là. Donc, mais ces choses qui étaient... Donc là, il parle de tout son passé religieux, juif. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Qu'est-ce qui doit nous motiver? Qu'est-ce qui fait qu'on va... perdre, mourir, lâcher, laisser ou je ne sais pas quoi, c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de l'excellence de mon obéissance, ce n'est pas à cause de l'excellence de je ne sais pas quoi, c'est à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le nouveau but dans ma vie, c'est la connaissance de Jésus-Christ, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Le reste, c'est des moyens d'y parvenir. Obéir, c'est un moyen d'y parvenir. Recevoir les grâces de Dieu, c'est un moyen d'y parvenir. Fonctionner dans les dons spirituels que Dieu m'a donnés, c'est un moyen d'y parvenir. D'enseigner, de chanter, de ceci, de cela, c'est pas un but. C'est pas une finalité dans la vie chrétienne. Si on le fait plus, on le fait plus. Si les circonstances font qu'on... on fait plus, c'est tout. Et on va servir autrement. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est que l'on serve. C'est pas forcément avec quoi on va servir. Et après, de manière générale, on va servir avec des choses précises et Dieu nous rend doués pour certaines choses et pas pour d'autres. Et quand ça fonctionne comme ça, ça fonctionne mieux et de manière plus efficace pour tous. Mais s'il y a des moments où ça doit être autrement, c'est pas le problème parce que c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas... Allez, là, donc, bon, là, il n'y a pas plus à commenter. Là, par contre, un peu plus intéressant, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Là, toujours la même idée. Le but, c'est de connaître Christ. Je cours, pourquoi ? Parce que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je veux saisir cette vie parce que j'ai été saisi. Et si je ne réalise pas que j'ai été saisi, je ne vais rien saisir, moi. Je vais essayer de saisir des choses que je n'arriverai pas à saisir. Donc, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose... oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière. Une chose qui peut être importante dans notre vie, c'est d'oublier ce qui est en arrière. Mais savoir que ce qui est en arrière, c'était déjà il y a... ça peut être ce qui était il y a une heure. C'est pas forcément... oubliant ce qui est en arrière, tu sais... avant que je me convertisse, j'oublie ce que j'ai vécu, mes péchés. Oui, non, mais ce que tu vis qui n'est pas à l'endroit, là, mais, il y a une heure, il y a un jour, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, oublie et regarde devant et allons-y. Voilà. Et juste pour finir, en Philippiens 4, verset 4 à 8, vite fait. Donc, il est en prison, eux, ils ont des difficultés de toute façon, comme toutes les églises. Le sujet, c'est la joie. Et là, j'aime bien parce que la manière dont il finit sa lettre, en fait, c'est un peu avec des petits points rapides, en fait, où il n'y a pas beaucoup d'explications, mais des fois, on a juste besoin de saisir ces points-là et nous, d'y donner une forme dans notre vie. Donc, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Là, il n'y a pas de commentaire, il dit « réjouissez-vous ». Mais comment, pourquoi, je ne sais pas, réjouissez-vous toujours. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Ça, c'est là, au moins, il fait de l'eschatologie rapide en trois mots. « Le Seigneur est proche », débrouillez avec ça. « Ne vous inquiétez de rien. » Ça, c'est pareil, c'est pas beaucoup développé. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. » Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, donc qui surpasse, si ça surpasse toute intelligence, ça surpasse ma compréhension de la situation qui fait que je m'inquiète, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc nos cœurs, c'est vague, nos pensées, c'est plus précis. Mes pensées, je sais où elles sont et je sais à quoi elles ressemblent. Mon cœur, des fois, je ne sais même pas de quoi on parle, hein, puisque je sais qu'on ne parle pas de celui qui bat ici. Voilà, évidemment. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Bon, après, voilà, pareil. Donc, très intéressant, parce qu'en fait, c'est des petits commandements un peu rapides, bref, pas beaucoup d'explications, en fait. Mais des fois, peut-être qu'on a besoin d'un peu moins d'explications. On a besoin d'avoir des lignes directrices. Et voilà, réjouissez-vous, ne vous inquiétez pas, déchargez-vous sur, pensez à ce qui est honorable, vertueux. Parce que là, c'est pareil. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est honorable ? Qu'est-ce qui est vertueux ? On peut en écrire des livres. Hein ? Lui, il n'écrit pas des livres, il écrit un mot, lui. Honorable, vertueux, juste, aimable, tout ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que je prends ça et justement mes pensées, peut-être que je les passe au filtre. Même si je ne suis pas très précis à la définition des mots qui sont là, est-ce que ce que je pense, est-ce que c'est vertueux ? Est-ce que c'est digne de louange ? Est-ce que c'est aimable ? Est-ce que ça mérite l'approbation ? Et des fois, je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications. Hein. Je sais vite si c'est oui ou non. Hein. Et des fois, je ne sais même pas pourquoi, mais au moins, je sais. Non, là, de toute façon, ce n'est pas édifiant, ça. Ce n'est pas la peine, c'est sûr. Ou ça, de toute façon, ce n'est pas vertueux. Donc, tu peux passer à autre chose, pas la peine, quoi. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, puisqu'on n'est pas là, dans trois semaines, on verra Colossiens, les deux Thessaloniciens, et on essaiera d'avancer un peu plus loin. Et ça sera très bien, parce que Colossiens, c'est bien. Et sur les deux Thessaloniciens, j'ai des choses intéressantes à dire que je n'ai pas eu le temps ce soir. Donc voilà, donc on a avancé un peu plus vite. Du coup, c'était un peu différent. Amen.